Bonsoir Alexandre Tarot.
Bonsoir.
On est avec vous pour votre dernier livre qui s'appelle Toucher, qui est sorti aux éditions Grasset. Quel est votre rapport à la déception?
Ah, ça commence fort. Je crois que mon rapport à la déception, il est quotidien parce que déjà, au sortir de la scène, je ne suis jamais content de moi. Quand j'entends des artistes, ils me disent « Ah, je suis tellement content, j'ai bien joué. » Moi, ça ne m'arrive jamais. Donc depuis que je fais du piano et depuis que je suis un homme de scène, quasiment tous les soirs, je ne donne pas des concerts tous les jours, mais presque, je ne suis pas déçu, mais sortir de scène, c'est aller travailler, c'est aller chercher du côté de ce qui n'allait pas pendant le concert, essayer de faire mieux. Voilà ma réponse.
Mais
oui.
Dans ce livre, on a l'impression que vous nous racontez une vie d'adaptabilité permanente.
Ah oui. Mais est-ce que ce n'est pas la vie de tout le monde, hein? On est dans une famille, un cadre, une culture, un pays, un gouvernement qui dirige ce pays avec des lois. On rencontre des amis, des amours. Et puis, on s'adapte en permanence. Le métier d'un pianiste, interprète de la musique classique, c'est un métier d'adaptation. Je suis un adaptateur. Ne serait-ce que, vous voyez, être en forme ici, après 2h30 de train, puis refaire 2h30 pour partir, c'est les vacances, parler avec vous. Mais quand il s'agit de jouer les variations Goldberg, ou je ne sais pas, des concertos de Beethoven, c'est beaucoup plus difficile. Donc, être pianiste, aujourd'hui, plus qu'avant, je pense, parce que les avions sont plus rapides et on nous demande aussi beaucoup plus, un métier plus sportif qu'avant. Être pianiste, c'est s'adapter au décalage horaire, aux hôtels, aux matelas, parfois tous les soirs un matelas différent, aux gens, au public, à l'acoustique, par-dessus tout, à l'instrument, puisqu'on change d'instrument, donc de partenaire sur scène, presque à chaque concert. Donc on a l'habitude, je pense que ça laisse des traces dans notre vie du quotidien, on a l'habitude de s'adapter, aller comprendre, aller vers l'autre, un public, une personne ou un instrument.
Mais c'est pas ce que vous aviez imaginé. Dans ce livre, vous nous racontez que quand vous avez commencé à faire du piano, vous n'avez pas imaginé ça.
D'abord, je voulais pas être pianiste. Et puis, est-ce que notre vie est fidèle à ce qu'on imaginait quand on avait 10 ans? Je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous imaginiez quand vous aviez 10 ans?
Être prestidigitateur. Et c'est un métier qui est assez proche du métier de pianiste. Parce que vous avez cet instrument, vous jouez avec vos doigts. D'ailleurs, les prestidigitateurs qui travaillent avec les doigts, justement, les petites boules, les pièces de monnaie, ils font leur gamme tous les jours. Nous, c'est pareil. Et puis, c'est un métier qui fait rêver tout de même. Un métier de magicien. Quand on est pianiste, on a l'impression d'avoir un orchestre de 80 musiciens sous ses doigts. On s'en amuse. Et on tire les ficelles, un peu comme un marionnettiste. Donc le piano, c'est un grand orchestre que ne sont pas le violon, la flûte, le violoncelle. Nous, on a plein de notes, on peut faire agir plein de personnages en même temps. Et oui, c'est en quelque sorte un métier de prestidigitateur.
Parce que vous dites aussi qu'enfant, vous êtes sous la table et que vous êtes chef d'orchestre dans vos jeux.
Oui,
dans ce livre.
Voilà. Alors je voulais être prestidigitateur et en même temps, je voulais être, parce qu'on imagine plusieurs choses quand on est enfant, je voulais être chef d'orchestre et compositeur. Et vous voyez, tous ces métiers, c'est un peu transformé, c'est un métier transformé comme la nourriture, mais c'est quand même, je les exerce aujourd'hui, parce qu'être être pianiste, c'est aussi être en quelque sorte chef d'orchestre et surtout compositeur. En plus, je compose un petit peu et je transcris beaucoup de pièces pour orchestre que je réduis pour piano. Donc, je suis en même temps ces quatre métiers.
Alors, si vous n'imaginiez pas ça comme ça, est-ce que vous êtes heureux de cette vie-là?
Je suis en plein décalage horaire et avec une petite grippe. J'espère que ma voix ne va pas baisser dans cette interview. Donc, ça, je dirais, ça dépend des jours. Là, aujourd'hui, je traîne un peu la patte. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre extrêmement heureux et très malheureux. Et ce sont les mêmes. Être seul dans sa chambre d'hôtel et savoir qu'on va jouer avec tel chef, tel orchestre ce soir, un concerto en sol de Ravel, ça peut être extraordinaire. Et sentir que le public vient là, on y est, je sais pas, à 4h30, on fait notre petite sieste, on renifle le concert qui arrive là. Et être tellement heureux de retrouver tel chef merveilleux, tel orchestre, tel public, tel piano, tel acoustique. En même temps, peut-être que le chef est abominable, peut-être que l'orchestre, on dit oui, finalement c'est pas terrible, ils connaissent pas bien Ravel, peut-être que le piano est en mauvais état, ou simplement peut-être un très bon piano, mais sur lequel on ne se sent pas bien, on peut être très fatigué, ne pas avoir envie d'y aller, et là c'est mortel. Ce sont des moments terribles parce qu'on veut donner le meilleur de soi-même, on veut aider les gens, accompagner les gens, leur faire du bien, et les jours où on sait qu'on ne va pas. Peut-être pas leur faire du bien, en tout cas pas au niveau que l'on souhaitait. Ce sont des moments très très durs.
Mais est-ce que vous aimez votre vie?
Vous en avez des questions? Oui, j'aime globalement ma vie, bien sûr.
Dans ce livre, vous nous racontez que finalement, aujourd'hui, après la maturité de ces années d'expérience, vous aimeriez retrouver l'authenticité de l'enfant que vous étiez du rapport que vous aviez au piano à ce moment-là. C'est-à-dire quelque chose de très libre.
Une liberté qu'on perd. Naturellement, avec ce que nous apportent nos professeurs. Tu vas jouer comme ça, il faut jouer comme ça, jouer comme ça. Ensuite, ça s'accélère au Conservatoire National, dans les grandes écoles de musique, quand on est adolescent. Et puis après, on a choisi d'être pianiste. Donc c'est le jeune âge adulte où on va essayer de jouer mieux que les autres. C'est un leurre, mais on s'engage sur cette voie-là pour quelques années, pas toute la vie. Il y a la compétition, on va écouter les disques. Il va y avoir les disques de nos collègues, mais aussi les disques du passé, les grandes versions, les versions de référence. Et donc, on va courir après tout ça. Et puis, à un moment, je ne sais pas, vers 40, 50 ans, on s'est dit, bon, allez, il faut laisser toute notre culture de côté. Et on se rend compte que c'est impossible. Mais on tente tout de même de retrouver le naturel de l'enfant. C'est pour ça que les enfants jouent mieux que personne Mozart. Parce qu'ils jouent sans se poser de questions.
Aujourd'hui, vous avez retrouvé ça?
Non, justement, j'aimerais. Parfois, oui, enfin, je ne sais pas, c'est très difficile de se rendre compte de ce que l'on projette, de ce que l'on donne, de notre jeu. Mmh. Il est impossible d'en parler et de ressentir ce que l'on fait.
Dans un livre, vous nous expliquez aussi qu'il y a des compositeurs qui accompagnent plus ou moins bien, plus particulièrement des âges. Vous parlez de Chopin en disant que c'est un compositeur formidable quand on est un adulte en devenir.
C'est vrai. Mais j'ai choisi aussi de mettre des compositeurs tout au long. On s'arrange avec l'écriture. Et je voulais, au départ, je vous explique. Au départ, Olivier Nora, le directeur de Grasset, qui a été rudement limogé il y a quelques semaines, est un homme absolument extraordinaire, très, très pointu. Vraiment, c'est un guide merveilleux. Pour moi, ça a été un guide merveilleux. Je ne me considère pas comme écrivain. Et il a sorti ce deuxième livre, donc deux livres dans la collection jaune des grands écrivains Grasset. Donc, je lui dois beaucoup. Et il me disait à un moment, c'est très bien Alexandre, mais ça manque de musique. Ça, il m'a dit deux phrases qui m'ont marqué. Ça manque un peu d'instruments et ça manque de musique. Donc j'ai rajouté des passages sur le piano. Qu'est-ce qu'est le piano? Ce rapport tactile au piano quand on est enfant, etc. Et un peu sur, pas toute ma vie, parce que ça s'arrête à 28 ans, jusqu'à 28 ans. Mais aussi des compositeurs. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'amener certains compositeurs qui font partie de mon panthéon, Bach, Ravel, Rameau et d'autres, Schubert, mais ne pas les mettre d'un coup, les faire intervenir à temps régulier. Et je me suis dit que Chopin, j'avais envie de parler de ma découverte de Chopin quand j'étais enfant, était en effet un bon accompagnateur de vie, surtout à l'adolescence, car je pense que c'était un adolescent toute sa vie. Ravel est l'ami des enfants, des tout-petits. Il se mettait à genoux pour jouer avec les enfants. On sent que c'est ce qui nous comprend bien. quand on a 7-8 ans et qu'on commence à jouer les œuvres faciles de Ravel, il y en a quelques-unes. Bach, plus à la fin du disque, parce que je trouve que Bach, c'est le compositeur, c'est vraiment le père, le grand-père, le patriarche de la musique classique. Celui qui est là à tous les instants de notre vie, si on en a besoin, si on se tourne vers lui. Celui qui nous guide, lui aussi est un guide parfait. Mais c'est un peu comme le grand-père qui sait, qui a l'expérience, vers qui on se tourne quand on a un problème dans la vie. Donc je trouvais que c'était intéressant de le faire intervenir plus à la fin du livre, puisque je ne vais pas très bien à la fin du livre. Mais je m'en sors.
Est-ce que récemment, vous avez rencontré un compositeur, pas forcément vivant, qui a été pour vous une rencontre décisive ?
Des compositeurs vivants. Gérard Pesson, Nico Mulli, le compositeur américain, il y a 2 ans, pour son concerto, Ramon Lascano, George Apergis, incroyable compositeur franco-grec, Oscar Strasnoy, cette année, puisque j'ai créé un double concerto pour violoncelle, piano et orchestre de ce compositeur argentin. C'est merveilleux de travailler avec les compositeurs classiques d'aujourd'hui, parce qu'ils nous font comprendre que les compositeurs sont des gens normaux. Voilà, ils font pipi, ils mangent, ils dorment, et ils ont des problématiques du quotidien semblables aux nôtres.
Parce que quand on travaille que sur des partitions de compositeurs qui ne sont plus là, on a quoi ? Une image comme ça, très fantasmée ?
Absolument. Et on se rend compte avec les compositeurs vivants que ce qu'ils veulent, c'est que ça sonne. C'est que ça aille jusqu'à vous. C'est que ça transforme la vie de quelqu'un. C'est que ça fasse pleurer ou épanouir quelqu'un qui ne va pas très bien. Et on peut passer par des chemins détournés pour l'interpréter, cette œuvre. Donc c'est très intéressant de travailler avec des compositeurs. Par exemple, Gérard Pesson est extrêmement précis sur chaque note. Alors là, il va falloir vraiment travailler très fort. Oscar Strasnoy va nous demander de travailler beaucoup, donc ce compositeur argentin qui habite Berlin. Mais il va pouvoir changer si je lui dis « Mais là, ça sonne pas très bien » ou « Je n'y arrive pas ». Allez, il change toute la page. Et donc, il y a comme ça une... On se dit que Mozart, par exemple, qui était aussi un grand improvisateur, Chopin aussi était un grand improvisateur, aurait accepté qu'on change beaucoup de choses dans sa partition. Et ça nous donne plus de liberté.
Vous avez parlé de votre adolescence. Dans ce livre, effectivement, on vous suit. Vous êtes tout petit, vous avez 3 ans et vous nous racontez que vous êtes un petit monstre qui ne tient pas en place. Jusqu'au moment en fait, où on va vous amener chez un professeur de piano qui va vous prendre la main pour le mettre sur l'instrument même du piano, et on sent à ce moment-là que vous avez encore en mémoire une intensité particulière.
Du moment et de sa main, parce que je trouve que le premier professeur de piano, pour tous ceux qui ont fait du piano, qui vont en faire, est essentiel. Et la première leçon est quelque chose de magnifique, qui reste en mémoire. Sauf si le professeur est très mauvais et vous tape la main avec une petite règle, ça n'existe plus, j'espère. Madame Tacon, c'était une personne merveilleuse qui est décédée maintenant, d'origine italienne, qui vivait au 107 rue Raymond Losserand à Paris. Une petite dame avec une perruque et un tailleur toujours très très bien habillé, qui ouvrait la porte comme ça, souvent en baissant la tête, parfois en parlant. J'avais l'impression que c'était une conversation ininterrompue. Et je rentrais chez elle, alors d'abord comme ça, puis petit à petit j'ai grandi. Pour à la fin la voir toute petite, parce que les dernières années de sa vie, elle était très voûtée, donc elle me paraissait une toute... Mais le jour de ma première leçon de piano, elle me paraissait gigantesque, et le piano me paraissait gigantesque pour un enfant de 4 ans et demi. Même un piano droit, c'est inatteignable. Donc elle m'a posé, ou c'est mon père, j'étais avec mon père, c'est peut-être lui qui m'a levé comme ça, qui m'a mis sur un gros coussin au-dessus du tabouret de piano. Puis ça se trouve, le coussin était comme ça, mais il me paraissait énorme. Et puis Madame Tacon m'a dit, voilà, allez, prends ta main. Je devais avoir très peur. Et elle a pris ma main, avec sa main, l'a tendue comme ça, c'est quoi? C'est 10 cm, 20 cm avant d'atteindre. Mais c'était un moment très, 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 très intense, très beau. Et avec sa main, qui a toujours été la paume de sa main, vous voyez, quand on est professeur de piano, on prend la main du jeune pianiste par le haut, comme ça, pour montrer, pour guider. Et donc, je sentais l'intérieur, la paume de la main, ni trop chaude, ni froide, mais toujours bienveillante, la main d'une mère, d'une seconde mère. Elle a posé comme ça ma main minuscule sur le clavier, à l'époque en ivoire, aujourd'hui c'est de l'ivoire de synthèse, a surgi le premier son, puis le deuxième, puis le troisième.
Vous nous racontez qu'à cette période-là, vous êtes un enfant qui évolue dans un univers assez joyeux, très bruyant. Vous composez des opérettes en famille le week-end, quand vous êtes aussi en lien avec vos grands-parents, vous venez d'une famille où votre mère est professeure de danse, votre père a été baryton, vous êtes baigné dans un univers très créatif.
Oui.
Et donc vous racontez toutes ces années-là avec une joie et en même temps sur un rythme effréné. On a l'impression que cette période passe très vite, qu'elle est en accéléré. Vous racontez beaucoup de rituels, vous racontez ce quotidien, les habitudes, tac, tac, ça bouge beaucoup. Et en même temps, vous nous racontez aussi que le bruit que vous avez, le bruit de votre enfance, c'est un bruit de voisinage, c'est un bruit de cours de danse, c'est un bruit de voisins qui sont, il y en a qui sont cinglés, donc vous racontez des pages hilarantes. Et on a l'impression que votre première musique, c'est celle-là.
Oui, mais l'enfance se construit sur une musique. La musique n'est pas que une valse de Chopin, c'est aussi les bruits des voitures. Alors, les bruits des années 70, les bruits de la rue, les bruits du quotidien n'étaient pas les mêmes. Ne serait-ce que dans une cuisine, les bruits de l'électroménager n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Un enfant d'aujourd'hui est envahi de bruit. Alors, il y a beaucoup plus de bruit aujourd'hui qu'à l'époque. Mais en même temps, rue Bergère, dans notre premier appartement, les vitres n'étaient pas du double vitrage. Donc on entendait beaucoup plus ce qui se passait chez les voisins, dans la cour. Donc je parle, oui, je trouve ça intéressant de parler de nos premiers bruits, de nos premières musiques. Il y avait en bas dans la cour des chiens qui aboyaient, qui me faisaient peur. Et c'était des chiens de la SPA, enfin ce qui existait avant la SPA. Donc des chiens perdus, des chiens abandonnés. Mais il y avait aussi les douces musiques des voix de ma mère, de mon père, qui était un chanteur d'opéra, d'opérette, qui a chanté à Bordeaux d'ailleurs, qui a fait plusieurs saisons au Grand Théâtre de Bordeaux. Mais les bruits, c'est aussi... Alors, le tourne-disque familial. Et j'adorais ça. Je me souviens, très jeune, j'ai été happé par les bruits. J'avais compris, je ne suis pas plus intelligent que les autres, mais j'avais compris tout de même que la musique c'est tout et que tout est musique. J'aimais par exemple le son de l'air qui passe sous la fenêtre. Vous voyez comme quoi nos fenêtres étaient pas très en mauvais état, mais le vent qui passe sous la fenêtre. J'aimais ça.
Alors cette mélodie là, en fait, que vous nous racontez, on a l'impression au fur et à mesure des pages quand on vous lit que c'est aussi une mélodie qui remplit tellement d'espace que vous n'avez pas de mots. On vous imagine pas très bavard.
Alors, je crois que j'étais bavard. Je chantais, je faisais l'intéressant tout le temps. Là, j'ai l'air très calme, mais à 5 jusqu'à 11 ans, enfin jusqu'à le début de l'adolescence, on va dire jusqu'à 12-13 ans, j'étais quand même un joyeux luron. J'aimais faire des grimaces, faire l'idiot. Et puis, je chantais, je dansais, puisque, comme vous le disiez, mes parents montaient des opérettes les week-ends, notamment dans des théâtres du Nord, Arras, Tourcoing, etc. Donc j'aimais danser, faire le pitre, chanter, jouer du piano aussi, parce que jouer du piano quand on est enfant, si on découvre, si on aime être en public, eh bien on découvre que, je sais pas, le week-end, nos parents invitent le voisin ou leur ami ou un oncle, eh bien on va jouer un petit morceau. Alexandre, tu vas bien nous jouer un petit morceau. Ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que tu travailles en ce moment? Et ben voilà, une sonate de Haydn. Et je jouais devant. Et donc, c'était mes premiers publics.
Vous aimiez ça?
Beaucoup.
Vous étiez un peu cabot alors?
J'étais très cabot.
Parce que vous dites, dans votre livre, vous dites la scène oui, mais les gammes non.
Cabot, mais très paresseux. Vraiment très paresseux. Et ce n'est pas ce n'est pas un drame d'être paresseux dans l'enfance, parce que même peut-être après, parce que ça laisse place à la rêverie, ça laisse place à voilà. Vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce que c'est imaginer la vie future. Ça laisse place au câlin, ça laisse place aux siestes, au sommeil, aux rêves. Donc j'étais un enfant paresseux, évidemment, ça frictionne avec le métier de pianiste qui balbutiait, enfin en tout cas qui venait à moi peu à peu. Et je savais, c'est pour ça que je voulais absolument pas rentrer au Conservatoire National, parce que je savais qu'en rentrant au Conservatoire National, je serais obligé de travailler minimum 5 heures de piano par jour.
Ce qui a été le cas, et on va y venir. Mais c'est une enfance aussi, vous racontez, qui va très très vite. Je le disais à l'instant, vous dites que vous étiez paresseux, mais en même temps, vous n'avez jamais le temps de rien, parce que vos parents montent des spectacles, alors vous partez, en même temps vous prenez des cours, en même temps vous êtes le chef d'orchestre sous la table quand vous jouez. En fait, on sent qu'il y a énormément de vie dans ce que vous racontez, et on a l'impression que votre corps, lui, est tout le temps en mouvement. C'est marrant, parce que votre écriture nous raconte que votre tête aime rêver, ne rien faire. Mais par contre, vous nous racontez dans les mots que déjà, votre corps est un instrument, déjà, enfant.
Les mains, pour le piano, le corps entier, surtout les jambes quand on danse. Donc, j'avais 2 cours par semaine. Et puis, quand on est enfant, on court partout. Mais c'est vrai qu'un enfant musicien court peut-être plus que les autres, parce qu'il faisait du sport, si je faisais du kendo. Donc, entre les répétitions pour ces fameuses opérettes, les cours de piano 2 fois par semaine, l'école, les cours de danse et bien d'autres choses, oui, ça faisait bouger ce corps que je n'aimais pas, que déjà je n'aimais pas. Et donc, j'étais face à ce grand challenge qui est de faire avec ce corps. Et en plus, quand on est enfant, ce corps change tous les mois, presque tous les jours. Et à l'adolescence, ça devient un corps dérangé qui s'allonge trop vite. Et à ce moment-là, le clavier devient presque un instrument de mesure par rapport à notre corps. Mais on se sent aussi dérangé vis-à-vis, face à cet instrument-là. Il faut faire avec, encore une fois. Nos genoux commencent à toucher sous le clavier. Vous voyez, on n'est plus... Nos mains grandissent, donc on est très content. On peut jouer plus virtuose, plus de choses, des octaves, des grands accords à 5 notes. Mais on ne joue pas si bien que ça avec un corps qui n'a pas eu le temps de s'adapter.
Pourquoi vous n'aimiez pas votre corps quand vous étiez enfant?
Parce que j'étais toujours plus petit que les autres et plus maigre.
Oui, ça, maigre.
Je suis parfois plus grand que les autres, mais je suis toujours plus maigre que les autres.
Vous êtes globalement plus maigre.
Globalement plus maigre.
Vous parlez de vos parents aussi, puis on a l'impression que eux, ils ont accusé des périodes de déception fortes, tous les deux. Votre père vous racontait un épisode où il a failli avoir une rencontre décisive en Italie, puis votre maman aurait aimé peut-être avoir une autre carrière que celle-ci. En tout cas, vous nous amenez à réaliser que vous en avez conscience très jeune de ça, ou c'est plus tard que vous réalisez que peut-être vos parents, eux, ont eu des déceptions professionnelles.
Vous faites penser à une chose, je crois que je l'ai réalisé le jour où je suis rentré au Conservatoire National de Paris, parce que je rentre chez moi, c'est un midi, donc on devait avoir les résultats dans la matinée, pardon pour la toux, et je rentre chez moi et ma mère me dit « Bon, t'appelles ton grand-père ». Mon grand-père, je l'appelais Boumpa. Tu appelles Boumpa, hein, parce que... Et je n'avais pas envie d'appeler Boumpa. Je ne sais pas pourquoi. Je ne voulais pas appeler Boumpa. Et j'appelle Boumpa. Et là, il me dit, ah ben, je suis très... Il était déjà âgé, avec une voix un peu tremblotante. Et à la fin, il pleure. Et j'apprends plus tard que, à la fin de ce coup de téléphone, ma grand-mère venait d'arriver et trouve mon grand-père. Il avait raccroché une minute avant. Et il est en larmes, comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, Alexandre est rentré. Je suis ému d'en parler là maintenant. Et je pense qu'à ce moment-là, moi, le jeune adolescent très fier de rentrer au conservatoire, je me suis rendu compte qu'au fond, mon grand-père, qui aurait voulu être un violoniste, donc il était violoniste, mais meilleur, faire peut-être une carrière, il avait joué dans les bals populaires, dans les brasseries, dans les casinos l'été, hein, le casino de Deauville, des trucs comme ça, des petits orchestres de cabaret, dans des boîtes de nuit, chez moi, dans mes toilettes à Paris, j'ai l'orchestre Claude Brochet ou Pierre Brochet, et on voit mon grand-père qui est comme ça avec son... Après, il a repris des cours pour essayer de s'améliorer, il était au dernier rang de l'orchestre Colonne, donc c'était quand même sa fierté de jouer dans un bon orchestre parisien. Mais enfin, pour lui, avoir son petit-fils qui rentrait au Conservatoire de Paris, c'était en quelque sorte, bon, ben, j'ai bien fait de faire tout ça. Et voilà, j'ai passé le flambeau.
Pour vos parents aussi?
Alors mes parents, donc je pense que j'y ai pensé ce jour-là. Mes parents aussi, parce que ma mère a été virée de l'opéra, alors que donc elle était danseuse, petite danseuse. À 17 ans, elle se fait virer de l'opéra, donc c'est, tout s'écroulait pour elle.
Bien sûr.
Parce que l'opéra, et encore aujourd'hui, ceux qui sont à l'opéra, au ballet de l'opéra, c'est tout et ça reste encore le meilleur corps de ballet, ballet classique au monde. Donc après l'opéra, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, elle s'est réinventée, bah, comme tout le monde. Hein, on a un gros pépin dans la vie, bah, on a une année difficile, et puis après, on retrouve d'autres rails. Et, enfin, bah, elle, ça a été être danseuse au Théâtre du Châtelet, où elle s'est bien amusée, puis elle a fait une tournée, et elle s'est retrouvée à Lille, où mon père, qui était en tournée avec les productions de Bordeaux, je crois, s'est retrouvé à Lille, et il a vu ma mère, et voilà, je suis là aujourd'hui avec vous. Mon père, c'était différent. Il avait son père. Ils habitaient Montrouge, à côté de Paris, sous Paris. Et mon père voulait absolument faire des études de lettres et écrire. C'était sa vie. Il aurait été heureux d'être là et voir que j'écris des livres. Et lui, c'est pareil, au même âge, 17 ans à peine, son père décide de partir dans la Creuse, dans le centre de la France, pour des plantations, de je sais pas quoi, du blé, d'une ferme. Et mon oncle se dit, bon ben c'est foutu, je vais jamais faire d'études de lettres. Et puis ça n'a pas poussé, et donc au bout d'un an, c'était la catastrophe. Donc son père, le père de mon père, a trouvé un poste du côté de Tarbes, et il est mort. Mon père, sans père, avait 17 ans et il a dû se réinventer. Donc, grande tempête dans sa vie, mais la vie de la famille aussi, parce que c'était l'aîné des enfants. Donc, il a été ébéniste, épicier, ambulant, il faisait des projections. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il est rentré au conservatoire de Tarbes en chant, puis au conservatoire de Bordeaux. Donc, s'il n'y avait pas eu Bordeaux, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là, c'est sûr.
Non, mais c'est incroyable. Vous avez quand même réparé, sans faire de psy, de comptoir, officiellement, vous êtes en train de nous raconter que vous avez sacrément réparé toute une famille qui a rêvé d'être musicien sur scène, écrivain. C'est un poids.
Rassurez-vous, vous n'êtes pas une psy de comptoir. J'ai fait une psychanalyse pendant 10 ans, il y a bien longtemps, et ça a commencé par ça.
Et alors, finalement, c'est un poids qui est difficile à porter ou c'est une joie?
Bah, ça doit être une joie, bien sûr. Ouais.
Pour vous, aujourd'hui, d'accomplir tout ça, c'est une joie?
Je n'accomplis pas ce que mes parents
ont voulu accomplir. Non, mais d'accomplir votre vie à vous, est-ce que du coup, c'est un vrai bonheur de vous dire aussi qu'indirectement, c'est un petit plaisir de famille?
C'est ça, des parcours. Mais ils ont eu une belle vie tout de même.
Ah oui, oui.
Ne serait-ce que ces opérettes qu'il montait le week-end, c'était vraiment ces opérettes, souvent avec des histoires désuètes, avec des princes, des princesses, des costumes, fait un peu à la va-vite, on répétait la veille. Enfin, c'était pas l'opéra de Paris, mais ils s'amusaient beaucoup. Et puis ils ont fait des enfants.
Oui, oui, non, mais puis vos pages sont extrêmement joyeuses. On est plongé en plein. C'est un mélange entre Amélie Poulain, parce qu'il y a énormément de détails, de plaisir, du détail. Et en même temps, il y a un côté, un éléphant, ça trompe énormément. Mais enfin, dans les années 70, ces pages sont très drôles et on a envie de rentrer dans votre famille. Hein. On a envie d'être là le week-end avec vous.
Donc, vous voyez, je crois, pour rebondir à ce que vous disiez, on déraille dans la vie parce que c'est nous, parce que c'est les autres, parce qu'il y a un véritable accident. Et c'est ce qui nous permet aussi de rebondir et de créer. Ça, parfois, c'est bien hein, d'avoir des accidents parce que notre vie, elle peut être tout tracée, notamment parce qu'on imagine quand on est enfant ou parce que nos parents nous ont dit « tu feras ça ». Et les gros accidents dans la vie, ça permet aussi de péter un câble, comme disent certains, et d'aller vers une toute autre vie. Moi, je n'ai pas été vers une toute autre vie. J'ai suivi un peu ce que le piano que m'ont mis devant moi mes parents. Puis après, oui, je voulais être précisateur, je ne suis pas précisateur, mais finalement, je suis pianiste. C'est un peu ce qu'on m'a proposé de faire. Ils ne m'ont pas du tout ordonné d'être pianiste. Mais je n'ai pas eu ce courage. je ne veux pas un gros accident dans ma vie, hein, mais j'ai finalement continué une vie qui a l'air très créative, mais c'est une vie qui est la même depuis que j'ai commencé.
Vous vous trouvez pas courageux de continuer à faire ce que vous faites? Parce que moi, quand je lis votre livre, je vous trouve sacrément courageux.
Moi aussi, je me trouve courageux.
On est deux.
C'est vrai.
On est déjà au moins deux.
Je me trouve courageux de surtout au bout de tant d'années. À 20 ans, c'est merveilleux de parcourir le monde. Puis c'est merveilleux de jouer en public parce qu'on a tout à créer, tout à faire, tout à dire. Mais à mon âge, donc 57 ans, c'est très fatigant, surtout après le Covid. Voyager, être seul dans sa chambre d'hôtel, aller sur scène, parfois on n'a pas envie.
Vous pouvez pas arrêter?
Ah oui, je peux arrêter. C'est tout à fait possible.
Si vous arrêtiez, vous feriez quoi? Vous enregistreriez des disques? Mais il faudrait quand même faire une tournée.
C'est ça, pour enregistrer des... Je ne suis pas capable. Je pense à Glenn Gould, d'un coup, qui a arrêté les concerts à 40 ans. Et puis il a dit, j'arrêterai d'être pianiste, d'enregistrer des disques, à 50 ans. Il est mort le jour de ses 50 ans. Je n'ai pas ce talent-là. Et j'ai besoin de la scène, vraiment la scène. Ça m'est indispensable.
Oui, parce que dans ce livre, vous dites que le théâtre, c'est votre maison. Vous êtes habitué, ouais. Vous avez grandi dedans. Et puis après, dans votre livre, on passe à l'âge de l'adolescence. Alors, au milieu, il se passe des tas de choses. Notamment, dans votre livre, il y a des entr'actes.
Ouais.
Et ça, c'est très joli. Voilà, au milieu de votre livre, il y a des entr'actes, c'est-à-dire des pages qui s'appellent entr'actes, dans lesquelles, il y a trois entr'actes, dans lesquelles vous racontez, il y en a quatre, pardon, dans lesquelles vous racontez quatre entr'actes différents, finalement. Alors, celui du milieu est très, très bouleversant. Et puis, il y en a...
C'est lequel, celui du milieu?
Bah, c'est un état sur lequel vous parlez de votre rapport à la mort. Vous évoquez votre rapport à la mort. Il y en a un qui est extraordinairement drôle, c'est celui dans lequel vous nous faites toute la liste de toutes les références culturelles des gens qui sont nés à la fin des années 60.
Ah oui.
Qui est quand même, alors là, on a toutes les marques possibles et imaginables, on a toutes les chansons, les musiques, les séries télé, donc
Dallas. Pour...
Ouais. Ça, c'est vraiment drôle. Pourquoi les entr'actes?
Je n'en sais rien. C'était au départ des chapitres comme les autres. Et je me suis dit que ça pouvait structurer le livre. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'ailleurs d'écrire un quatrième entr'acte vers la fin pour parler du futur. Puisque je m'arrête à 28 ans, je me suis dit, mais ce serait intéressant de faire une sorte de CV. Et ces quatre entr'actes, comme vous l'avez dit, sont des listes de titres, de très courtes phrases. Et ça me permettait aussi de faire en quelque sorte un accéléré de la vie. Et puis de dire, bah, c'est un entr'acte, vous n'êtes pas obligé de lire. Enfin, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de lire mon livre, mais si vous rentrez dedans et que vous avez envie d'aller un peu plus loin, ben, l'entraide, vous pouvez le mettre de côté. C'est un peu, vous savez, au cinéma, on a, je sais pas si il y a toujours ça, oui, peut-être, à Bordeaux, des paniers.
Des ouvreuses. Comme
ça. Ouais, avec
non,
chocolat.
Non.
Comment ça
s'appelle? Nous aussi, on est devenus modernes, figurez-vous.
Ça n'existe plus. Ben, oui, je ne vais plus au cinéma depuis des années, des décennies. Chocolatis
ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé au cinéma.
Oui, c'est ça. Mais c'était merveilleux.
Ouais, c'était en 1980. Vous êtes allé voir E.T. et depuis, terminé, non? C'est ça?
Ah oui, E.T. avec ma grand-mère. Oui.
Mais alors, sur ces histoires d'entracte, quand même, j'y reviens, parce que bien sûr, ça vous permet de structurer votre livre, mais ça permet autre chose, selon moi, lectrice en tout cas, c'est que vous nous aidez à entrer dans l'adolescence, parce que là, vous faites une peinture des années 80 qui sont pas si drôles que ça. Parce que là, vous nous racontez que les années 80, c'est une période assez viriliste sur lesquelles rôde le sida. Que quand on est un garçon dans les années 80, il n'est pas question d'annoncer, y compris dans sa famille, hein, qu'on peut aimer les garçons. Ça, c'est pas envisageable. Donc là, vous nous invitez à entrer dans une période qui n'est pas que Véronique, Davina et Bernard Tapie. Quoi. Il y a aussi ce
côté... Est-ce que l'adolescence est une période joyeuse? Je crois que c'est très rare.
Bah, la vôtre a l'air d'être quand même particulièrement pénible.
Alors, pénible, oui. Absolument épouvantable, c'est vrai. Pénible, d'abord parce que j'étais un adolescent pianiste. Donc j'alignais mes fameuses 5 heures. Une fois, j'ai même fait 8 heures. Mais c'était pour rigoler, enfin pour
ça devait être hilarant, oui.
Oui, non, je veux dire, c'était pour aussi me dire, bah, tiens, j'y arrive. Donc, un adolescent pianiste, c'est quand même un adolescent qui se situe en marge
des autres.
Des jeunes de son âge, oui. Avec beaucoup moins de... qui est quand même, oui, isolé par rapport au reste du monde. L'adolescence isole, évidemment. Et puis, je sentais mon identité, justement, qui s'affirmait face à une société homophobe. Je pense que les familles qui accueillaient un jeune gay à l'époque, bah, c'était vraiment très rare, elles devaient se compter sur les doigts de la main. Et puis toute la société, c'était pas que la famille, c'était pas que le cercle familial, le cercle scolaire, c'était toute la société qui était homophobe. C'est très très dur. C'est comme aujourd'hui dans d'autres pays ou aujourd'hui dans des petites villes. Mais au moins on en parle à la télévision, où on peut trouver, je pense qu'un jeune homosexuel trouve des points de repère dans la culture, au cinéma, à la télévision, sur son téléphone, sur son iPhone. Mais à l'époque, ce n'était pas possible parce que les homosexuels, au mieux, on en riait. C'était La Cage aux Folles, hein, les années 80. Merveilleux film, hein, avec...
oui, enfin, très caricatural quand même.
Mais voilà, c'est une caricature, on rigolait bien. Au pire, on les insultait. Et puis, on les tuait.
Oui, oui, vous racontez la tension, vous dites dans la rue, il y avait quand même une certaine tension à sortir. Puis surtout, à l'époque, donc... C'est les années SIDA, et donc on essaye de repérer un peu les gars qui sont plutôt maigres et plutôt pâles. Et vous avez, c'est votre description, quoi.
Oui, les années 80, vraiment fin des années 80, début des années 90, vous voyez, et je pense que c'était la même chose ici à Bordeaux. On a commencé à créer des clubs de gym partout, dans tous les quartiers. Les hommes devaient être musclés. Et il y avait en même temps la création de magasins pour faire des UV, vous voyez, des sortes de cercueils comme ça, avec des néons, vous vous rappelez de ça? Il y en a encore, mais très, très peu aujourd'hui. Ça allait ensemble. Et les acteurs de cinéma, par exemple, ou les présentateurs de télévision, enfin, toutes les stars, hommes, devaient avoir des muscles et devaient sembler en forme. Alors moi, j'étais donc à la fin de mon adolescence, vers 20 ans, totalement blanc, comme un cachet d'aspirine et très maigre. Donc voilà, j'ai appris très tôt à cet âge-là que la maigreur pouvait faire peur.
Dans ce livre, vous racontez aussi qu'à cette époque-là, on a l'impression que ce qui va beaucoup participer à vous aider, à vous soutenir, c'est des amitiés très fortes. Et au fur et à mesure de ce livre, vous racontez des amitiés très fortes. Quand vous êtes enfant, ça semble être votre sœur, votre chien, votre piano. Puis après, à l'adolescence, vous avez des amitiés très fortes avec Madeleine Millot, par exemple, qui est une vieille dame, mais chez qui vous semblez trouver un refuge. Et vous racontez qu'au fur et à mesure de votre vie, c'est les autres, parfois, qui vont vous aider à tenir debout.
Je pense que c'est le cas pour nous tous ici, tenir debout, même dans mes périodes heureuses. Hein, c'est vraiment les amitiés, c'est presque, enfin notre famille de cœur, les gens que l'on choisit ou qui nous choisissent, et puis on choisit de continuer avec. Ce sont nos bases solides, et on se fait. Alors c'est peut-être plus palpable, entendable quand on est musicien, parce que c'est notre son même qui change, notre manière de jouer, de chanter la musique, d'être sur scène, qui est pleine de ces rencontres décisives.
Enfin, vous, votre grande copine, elle a 82 ans quand vous en avez 17.
J'ai toujours aimé les vieilles dames. oui, elle avait, bah, je sais plus, il y avait au moins,
oui,
au moins 60, enfin, au plus de 60 ans de différence.
Oui.
Mais je ne la voyais pas comme telle. C'était une éternelle jeune fille. Et puis, on parlait beaucoup, c'est vrai. Il y a eu d'autres personnes, je n'ai pas mis toute ma vie là-dedans.
Parce que chez vous, on n'avait pas le temps de parler, ça allait trop vite.
Mes parents travaillaient vraiment énormément. Donc quand j'habitais chez eux encore, ils travaillaient vraiment. Mon père entrait parfois très tard le soir de son garage, mais il y avait aussi les répétitions. Enfin, vous voyez, c'était un père garagiste et en même temps metteur en scène. Ma mère donnait des cours, ça n'arrêtait pas. Et puis après, quand je me suis retrouvé seul, heureux d'être seul dans mon studio, rue Saint-Antoine, à Paris, au 133 rue Saint-Antoine. Mais j'étais quand même au fond d'une cour, dans un studio en pierre, très humide, très froid, sans véritable lumière, et je me sentais très seul. Et là, je parlais peu.
Mais on comprend pourquoi vous vous sentez très seul, puisque tout le reste du temps, vous nous racontez un livre dans lequel, même quand vous êtes tout seul dans votre chambre, vous entendez tellement bien tous vos voisins que, de toute façon, il y a toujours quelqu'un avec vous.
C'est ça. Mais on peut se sentir seul avec beaucoup de bruit autour. Comme quand je parlais des orchestres, tout à parfois, quand ça se passe mal avec un orchestre, je vous rassure, ça arrive une fois sur 200, 300. Il y a un chef d'orchestre, mais on se sent très seul. On peut être dans une foule et se sentir très seul.
Mais alors, est-ce que vous aimez ça, vous sentir très seul?
La solitude, c'est le point central de tous les solistes voyageurs. Donc on aime ça et on déteste ça. Je ne sais pas, ça, encore une fois, ça dépend des jours. On sait dès le départ, quand on s'engage dans cette vie, je vous regarde un petit peu quand même, dans cette vie de, quand on s'engage dans cette vie de pianiste, soliste, on sait dès le départ qu'on va être seul, mais que c'est une solitude tout à fait évidente pour mieux partager. On ne peut pas jouer les dernières sonates de Beethoven, par exemple, ou les impromptus de Schubert, qui sont tellement profonds, on ne peut pas les jouer en faisant la bringue toute la journée avec nos amis ou rencontrer plein de gens. C'est impossible. On a besoin de s'enfermer à triple tour pour mieux partager après.
Mais on a plaisir aussi. Quand même, en vous lisant, que cette histoire de solitude, c'est aussi l'endroit sur lequel, du coup, vous êtes adaptable. C'est-à-dire que c'est comme des moments de repli qui vous permettent, du coup, de pouvoir vivre avec les autres sans heurts. C'est-à-dire que vous ne vous énervez pas. Vous ne dites jamais voilà non, vous êtes d'accord, voilà, vous êtes vraiment adaptable.
Alors je sais pas si je me suis adapté à tout, hein, j'ai aussi un caractère comme il faut. Vous voyez je pense quand vous parliez là, je me pensais à nous dans la loge, parce que alors je vous raconte, derrière il y a une petite loge adorable et puis un tout petit couloir, vraiment on a l'impression d'aller à l'échafaud dans cette petite le tout petit couloir, mais ici c'est merveilleux et la loge est merveilleuse. Et puis on s'est vu. On s'était déjà rentré pour parler de mon autre livre. On s'est vu donc il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, enfin le temps passe. Mais et puis on a parlé un petit peu. Et puis tout d'un coup, vous avez lu vos notes et moi j'ai regardé comme un idiot mais des vidéos très intéressantes sur Instagram. Et mais on est resté silencieux tous les deux comme ça. Et c'est ça l'enfermement et être seul. Là, on n'était pas seul, mais seul. On était seul ou on n'était pas seul. Je ne sais pas. Et puis on est venu ici. Mais ce silence, la solitude, voilà, c'est un merveilleux silence. Il y a le silence. N'existe pas. Hein. On a toujours des bruits autour. D'ailleurs, il y avait des bruits de la cour aussi, comme chez moi quand j'étais plus jeune. Mais c'est ce merveilleux silence qui permet, comme un sas, qui permet d'arriver sur scène et d'être totalement disponible à votre écoute.
Mais ça veut dire, parce que dans votre livre, vous nous expliquez que vous allez faire pendant 10 ans le conservatoire, mais qu'on ne vous parle jamais de respiration. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au contraire, ce qui compte, c'est la respiration. Le moment où vous appréciez d'être dans le silence et vous respirez calme.
Dans la vie, mais plus particulièrement dans la vie d'un musicien. Et c'est vrai que le Conservatoire National a bien changé. Mais je pense tout de même qu'on n'apprend pas encore l'essentiel de ce métier. C'est fou quand même.
C'est-à-dire
40 ans après. Respirer. Les professeurs de piano au conservatoire de Paris, s'ils m'entendaient, me disaient « si tu savais ce qu'on leur parle à nos élèves, on leur parle de respiration, bien sûr. » Je veux dire, respirer dans la vie de soliste. Ce qui est le plus important dans la vie d'un musicien, d'un pianiste, ce n'est pas jouer du piano. L'instrument, le piano, est l'un des plus faciles à jouer par rapport aux instruments à cordes, aux instruments à vent, si je pense au bois ou à la flûte. Le piano n'est pas quand même, c'est pas pour rien qu'on ait des dizaines de millions de pianistes à jouer fort bien. Le plus important, c'est quand même tout ce qu'il y a à côté. Le rapport public, je parlais des matelas, comment faire? Ça devrait s'apprendre au conservatoire. Comment faire pour bien dormir? Comment faire pour s'adapter au décalage horaire, travailler avec un régisseur, l'accordeur, comment avoir une bonne relation avec un directeur de salle de concert, avec les agents, comment aller vers une maison de disques, comment
personne vous l'a.
Comment changer son répertoire, comment on va faire pour peut-être changer son répertoire parce que notre corps va changer, comment on va s'adapter, comment on va adapter notre corps, puisque vous parlez du corps, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, comment on va préserver ce corps. C'est 1000 choses qu'on n'apprend pas, me semble-t-il, dans les grandes écoles de musique.
Vous pensez, par exemple, que si on vous l'avait appris, vous n'auriez pas avalé autant de somnifères dans votre vie?
J'ai avalé des somnifères parce qu'il y avait des souris chez moi et parce que mon professeur conservatoire était épouvantable. Et donc j'ai commencé à 14-15 ans, toutes les nuits. jusqu'à 28 ans, jusqu'à la fin de ce livre.
Mais si on vous avait un peu accompagné, vous pensez que ça se serait passé autrement?
Oui, je pense que si j'avais eu un psychologue et même une psychanalyse, parce que je trouve ça merveilleux, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont fait une psychanalyse à la fin de l'adolescence, je n'en ai pas connu, qui ont commencé plus tôt, mais alors, ce sont des personnes d'un équilibre vraiment admirable. J'aurais bien aimé faire une psychanalyse dès 17-18 ans.
Est-ce que vous pensez, par exemple, que le fait d'avoir écarté vos mains, changé la structure de vos mains, a vraiment changé votre carrière?
Non, mais c'est vrai que je ne grandissais pas et ça me faisait peur. Et donc, mes années de conservatoire, les premières, donc 14-15 ans, je fais ça, vous voyez, sur le bord du clavier ou d'une table, sans remonter le poignet. Je vous montre ça comme un exercice à faire. Ne le faites pas, de toute façon, vous êtes un peu trop âgés, hein, tous. Faut être avant l'adolescence pour le faire. Donc, je faisais, puisque ma main n'était pas assez grande, je faisais ça sur le clavier. Les deux premiers doigts, les deuxièmes, ça fait mal. Hein. Et je hurlais de douleur. Je faisais ça.
Mais
ça.
Personne ne vous a dit, arrête.
Mais personne ne me voyait, c'était dans ma chambre.
Ah ouais.
Et d'ailleurs, si vous regardez ma main, elle est quand même... ce n'est pas une main palmée, parce qu'il faudrait que la peau aille là, mais elle est, c'est une main en éventail qui n'aurait très probablement pas été celle-là si je n'avais pas fait ces exercices. Donc, ça a fonctionné.
Et ça a changé votre carrière, vous pensez?
Bah, de toute façon, j'ai grandi. Un an après, j'ai grandi. J'ai fini par grandir.
Quel rapport vous avez avec votre corps aujourd'hui?
Quel rapport avez-vous avec votre corps, vous tous? Un corps que je n'aime toujours pas, mais je fais avec. Et puis avec l'âge, je pense qu'on est tous d'accord, on fait mieux avec. C'est un corps qui est divisé en deux, un bas solide, un haut fragile. Je ne vais pas vous parler de mon corps pendant une heure. Et donc, je me sers de ça. C'est-à-dire, j'ai toujours l'impression, et j'en parlais dans mon premier livre, donc ça n'a pas changé au bout de 9 ans, je peux être vraiment terrien, je peux m'ancrer au sol. Et c'est ma solidité. Et je touche les nuages. Je peux être aérien, je peux avoir un son léger, je peux m'amuser, je peux être... voilà.
Parce que c'est quand même votre partenaire, enfin...
Oui. Mais vous voyez, le corps d'un pianiste est aussi coupé en deux, parce qu'on a, en gros, quand on nous voit de profil, on a ses jambes comme une personne paralysée, qui ne bouge pas. Enfin, si les pieds, là, mais enfin, ça peut être quelques centimètres avec nos trois pédales. Et puis là, ça ne bouge pas. On bouge, on a besoin hein, de nos mollets, nos cuisses pour jouer. Mais... visuellement, ça ne bouge pas. On a besoin de nos fesses. Ça, c'est très important d'avoir un bassin très souple. Et le haut est fluide. Là, on joue avec nos bras, ça se voit. Notre dos bouge beaucoup. On joue beaucoup avec le haut du corps. Mais c'est comme si notre corps était scindé en deux, sauf au moment des saluts et quand on rentre sur scène. Mais un salut de musicien, c'est aussi ça, quoi, comme un pantin qu'on plie en deux.
Et faire de la danse, quand vous étiez petit, vous avez l'impression que ça vous a aidé?
Oui. D'abord, faire de la danse, c'est ce qui m'a amené à la scène. À être costumé pour les petits galas de danse de fin d'année. À être maquillé, même. À être sous le feu des projecteurs. Quand je vois des musiciens qui arrivent, qui saluent, dans une salle de concert où il n'y a pas beaucoup de projecteurs, qui saluent dans le noir, ça m'amuse toujours parce que je me dis, mais ça, c'est parce que j'étais sur scène à 4 ans, pour de la figuration, pour de la danse. Pour chanter parfois. Donc la danse, ça, c'est phénoménal quand on est enfant pour comprendre la scène, pour appréhender la scène, pour savoir aussi que la vie paraît bien fade à côté de la scène. Donc là, je n'aurais pas été pareil, mon corps n'aurait pas été pareil.
Oui, c'est ça.
Sans avoir dansé.
Et l'écriture, à quel moment ça arrive dans tout ça, dans toute cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Vous écrivez depuis toujours? Vous avez un bloc avec vous toujours? C'est le moment où vous pouvez respirer quand vous êtes entre deux? Quelle est la place de l'écriture dans cette vie-là?
Enfant, je voulais écrire un livre. J'étais totalement incapable. J'avais commencé, je crois, évidemment, je n'ai plus... vous parliez de bloc, cette fête. Hein. Je sais pas, non, un agenda. Vous voyez, un gros agenda comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça chez moi. Donc, j'essayais d'écrire un roman. J'étais totalement incapable. Et j'étais très mauvais à l'école, en français plus que dans toutes les autres matières. Donc incapable de lire un livre. Et vous voyez, là, je parle avec facilité, mais mes premières interviews jusqu'à il y a peu de temps, finalement, c'était des calvaires. Et j'écrivais, il m'arrive encore aujourd'hui, quand je suis fatigué, de préparer mes interviews. d'écrire. Donc, je suis en voiture ou dans le métro à Paris. Je vais, par exemple, à Radio France et j'écris des phrases avec un complément d'objet direct, un sujet, un verbe, qui vont me servir de colonne vertébrale. Voilà, 10, 15 phrases comme ça. Et puis, je vais broder autour. La peur de faire des fautes, même devant vous, la peur de faire des fautes de français. Sauf que maintenant, je n'en ai pas honte. Donc, j'étais pas prédisposé à écrire trois livres, enfin, un sous forme d'interview et deux autres à la première personne. J'étais pas du tout prédisposé pour écrire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai quand même écrit, donc avec ce livre à quatre mains, le deuxième, aidé tout de même par Jean-François Sprissigo, qui est un merveilleux photographe, mais qui écrit beaucoup mieux que moi. Et qui on a pris l'habitude comme ça, dès que je finis un chapitre, je lui envoie et me corrige. Donc ça sert de moteur pour écrire le suivant, etc. Donc j'ai pu écrire le premier livre avec plein de chapitres différents. Et puis j'ai écrit celui-là sur pas mal d'années. D'abord, c'était très mauvais. Et puis ça s'est amélioré en travaillant, en cherchant le mot juste. Nous, les musiciens, dès qu'on ouvre la bouche, on a l'impression qu'on n'est pas là où il faut. On n'est pas à notre place juste. Nos mots, même là, en vous parlant, mes mots ne sont pas exactement ce que je veux dire. Alors que quand je joue un la bémol, je sais que je suis à ma place juste. La justesse. Beaucoup mieux que l'exactitude. La justesse là où, où on ne ressemble à personne. On est vraiment en phase avec soi-même. Un beau la bémol qui nous ressemble, c'est beau. Mais dire une phrase, c'est beaucoup plus compliqué pour moi.
J'ai envie de vous dire, et particulièrement pour ce livre-là, non ?
Oui, parce que c'est un livre intime. C'est pour ça que j'ai mis des années à le sortir.
Et alors, c'est particulièrement difficile d'en parler ?
Non, vous voyez, là, j'ai vraiment... Vous faites, c'est mes premières interviews. Je n'ai pas de difficulté à en parler.
Et vous avez préparé des phrases dans le train pour, en venant ou pas ?
Non. Ah. Parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, je savais que ça se passerait bien. J'avais une très belle, très beau souvenir des premiers échanges il y a 8 ans à peu près, et avec vous aussi. Ouais.
Ce livre-là, je le disais, alors vous n'en avez pas conscience, c'est un grand livre, hein. C'est un livre bouleversant, c'est un livre magnifique. Bon, bah tant pis, je vous l'aurais dit. Donc vous n'avez pas la mesure, c'est marrant ce vocabulaire, ouais. En fait, la mesure de ce livre qui était un très beau livre et qui est en réalité est très universelle, puisque vous parlez de la place dans ce livre, vous parlez de la place qu'on essaye de trouver dans sa famille,
ouais,
dans le monde, vous sur parlez scène. De l'identité.
Bah oui, quand on parle de soi, on parle des autres, et quand on parle de soi, on peut toucher à l'universel aussi. Je trouvais ça intéressant, ce qui m'intéressait, et c'était aussi le retour d'Olivier Nora depuis des années, c'est que je voulais montrer, je voulais témoigner qu'on pouvait faire le métier qu'on voulait faire, qu'on pouvait être sur scène par exemple sans avoir tout, qu'on pouvait être un pianiste sans avoir le corps pour être pianiste, comme je vous disais, je vais pas parler de mon corps pendant une heure, mais j'avais des coudes à angle droit, enfin des bras trop longs, des machins, des trucs, ça va pas du tout, mais je suis pianiste. Je n'avais pas de mémoire, entre autres à cause des flots de somnifères que j'ai ingurgités pendant 14 ans, et bien je jouais avec partition, et ça donnait des idées aux autres d'ailleurs, et j'ai pu faire une carrière internationale. J'avais envie de jouer plein de répertoires qu'on m'interdisait au conservatoire, mais aujourd'hui je les joue allègrement, et j'ai pu donner aussi des idées aux autres. Voilà, je trouvais aussi...
Donc au fond, c'est une conversation, ce livre, avec les autres.
Bah sûrement, je pense qu'un livre est une conversation, par essence, non ?
Je sais pas, dites-moi.
Qu'en pensez-vous ?
Bah vous. Eh non, c'est moi qui pose les questions.
Quand on pense...
Oui. Pas de chance.
Alors, quand on écrit un livre à la première personne, quand on écrit sur sa vie, c'est déjà très pénible, hein, parce que écrire je... ça nous semble inintéressant. Vous pouvez pas imaginer quand vous me dites que le livre est bien, qu'il est intéressant, qu'on va très vite. J'ai des retours, c'est vrai, vraiment, que je ne pouvais pas imaginer il y a encore un mois. Parce que c'était tout le contraire. J'avais l'impression que les gens trouveraient ça inintéressant au possible. C'est aussi pour ça que j'ai rajouté de la musique. Pas seulement parce qu'Olivier Nora me l'a demandé, mais aussi parce que je me disais, s'il n'y a pas de musique, on va acheter un livre de pianiste. Vous voyez, il y a même un piano en photo. Et puis, ouais, totalement déçu d'entendre parler des années 80, des Daninos, de Dallas, choses comme ça. de dépression, je fais une dépression à la fin du livre, absolument pas intéressant. On attend d'un pianiste, d'ailleurs, à ma connaissance, un livre comme ça n'a jamais été écrit par un soliste. On attend d'un soliste qu'il écrive sur les grandes rencontres. C'était le grand musicien. J'ai rencontré le grand musicien, j'en parle absolument pas. Quelques musiciens, j'en parle. S'ils m'entendaient dire, ben non, je suis quand même un grand musicien. Mais si vous voulez, ce que je trouve, et c'est en cela que je vous rejoins, oui, c'est une conversation, parce que je dis, voilà, et vous ? Moi, je suis passé par là, et je suis quand même arrivé à avoir la vie que je voulais. C'est une vie extrêmement créative, qui ne ressemble en rien à la vie d'un pianiste soliste, en tout cas telle qu'on l'imaginait et qu'on la vivait à l'époque. J'ai pu créer, en quelque sorte, un nouveau métier de compositeur. Et vous ? Voilà, c'est un peu ça la conversation. C'est voilà, je suis passé par là. Et est-ce que vous aussi, comment vous faites vous, ou comment avez-vous fait?
Et alors, ce sera ma dernière question, Alexandre Tarot. Ce livre, c'est aussi délicieusement une forme d'éloge, ou en tout cas d'amitié, à la vulnérabilité, à la fragilité. Il y a une forme de douceur dans votre livre.
Une des grandes musiciennes que j'ai rencontrées, mais pas personnellement dans ma vie, c'est Barbara. Et je lui dédie un chapitre entier, comme dans mon précédent livre. Et j'ai compris avec Barbara ce qu'aucun professeur de piano ne m'a fait comprendre. C'est que pour être un véritable artiste, il faut se montrer à nu. Sa vulnérabilité, c'est le mot que vous avez utilisé,
oui.
Ses fragilités, mais tout ce qu'on a traversé, des choses merveilleuses, des grandes lumières, mais aussi des tunnels sombres et parfois des choses glauques, et mettre tout sur table. Et c'est ce qui m'a... Je ne me compare pas à Barbara, c'est une artiste unique, et je pense que personne d'autre n'a été à ce point dans l'exhibition de tout ce qu'elle a vécu, hein, des choses... absolument terrible, l'inceste, son enfance cachée pendant la guerre. Mais Barbara a pu vivre, a pu survivre grâce à nous, son public. Et donc c'est grâce à elle, notamment en la voyant, plus qu'en l'écoutant. Donc, il y a ses chansons, Le mal de vivre, d'ailleurs ma dédicace, c'est au jour qui vient. C'est une partie d'un vers de Barbara. Je voulais écrire tout le vers, au jour qui meurt, au jour qui vient, et puis on m'a dit, non, ça va au jour qui meurt, ça commence un peu mal ton livre. Donc je n'ai mis qu'au jour qui vient. Mais j'ai appris avec elle qu'il fallait tout dire, qu'il fallait être transparent, et dire voilà. Et donc on peut l'être, en rentrant sur scène, mettre ses mains sur le clavier, et par son son, évidemment, moi, je ne dis pas des mots, je ne chante pas, je ne suis pas Barbara, je ne suis pas chanteur, je n'écris pas de chansons. Mais par le son du piano, je suis persuadé qu'inconsciemment, l'auditeur qui est là au dernier balcon, quatrième balcon, tout au fond, dernier rang, il ressent ça. Il ressent le fait que je ne sais pas comment je joue. Je ne suis peut-être pas, très certainement pas le meilleur pianiste au monde. Mais je l'invite à rentrer chez moi, comme on invite des gens le samedi soir. Alors j'ai fait à manger, je sais pas si l'entrée sera bonne, j'ai fait un ragoût de cochon, je fais jamais de cochon, mais voilà, se retrouver entre amis. Je vous invite chez moi avec ma petite cuisine, c'est ça, ma petite cuisine qui est faite de ça, de ci et de ça, avec des périodes de ma vie très troubles, mais aussi des périodes heureuses, et puis les accidents dont j'ai pu tordre le cou pour arriver à faire quelque chose de beau.
Et à propos de cuisine, j'ajouterais que dans ce livre, si on croise souvent Barbara, on croise aussi régulièrement des crêpes au sucre. Merci beaucoup, Alexandre Tarot.
Merci, c'est très agréable de parler avec vous.
Merci beaucoup, Alexandre Tarot.
Merci.